il y a trois penseurs qui marquent notre époque, je veux dire, dont la pensée s'est diffusée même chez ceux qui ne les ont jamais lus. En effet, souvent les idées, après avoir été émises par un certain nombre de penseurs, descendent, si j'ose dire, dans un premier temps, chez leurs disciples, et puis, à travers leurs disciples, se diffusent dans l'ensemble d'une population. Et je crois que les trois grands penseurs qui marquent notre époque, ce sont dans l'ordre chronologique, Darwin, Karl Marx et Freud. Si bien que même ceux qui ne connaissent rien du darwinisme, du marxisme ou du freudisme emploient des mots désignant des concepts imaginés par ces hommes. D'autre part, il est des penseurs, comme par exemple le Danois Kierkegaard ou Nietzsche ou Freud, dont la vie est tellement mêlée à leur œuvre qu'on ne peut esquisser leur système de pensée sans esquisser du même coup, en même temps, leur existence. Et c'est pourquoi j'ai pensé, peut-être à tort, qu'il n'était pas de meilleure introduction à la psychanalyse que de la voir dans le mouvement historique même de sa création à travers la vie et l'œuvre, bien sûr, de Freud. Freud est né en 1856 dans une petite ville qui s'appelait alors Freiberg et qui faisait partie, en Moravie, de l'Empire d'Autriche-Hongrie. En fait, aujourd'hui, Freiberg se nomme Tibor et est une ville, toujours en Moravie, mais cette fois en Tchécoslovaquie. Et Freud était d'une famille juive. Il avait d'ailleurs reçu un prénom juif, Shlomo, Salomon, disons-nous en français, et il avait été aussi nommé Sigismund. Sigismund était un prénom de trois rois de Pologne qui, du milieu du XVIe siècle au premier tiers du XVIIe siècle, avait protégé les Juifs. Et donc, en l'honneur de ces rois de Pologne, protecteurs des Juifs, les parents de Freud avaient nommé leur fils, appelé, prénommé leur fils Sigismund. Il avait donc deux prénoms. Sigismund, c'était son prénom allemand, disons, et Shlomo, son prénom juif. Et puis à partir de sa 13e année, comme on trouvait que Sigismund était un peu long, on avait pris le prénom qui paraît être un diminutif, Sigmund, et c'est sous ce nom de Sigmund Freud que Freud est connu. Son père, Jacob Freud, était un négociant en tissu, qui d'ailleurs a eu à plusieurs reprises des revers de fortune assez sérieux, et qui, la chose est d'importance, vous verrez par la suite, après avoir perdu une première femme dont il avait eu deux fils, s'était remarié avec une femme prénommée Amalie, qui était de 20 ans plus jeune que lui. Freud avait donc 40 ans au moment de ce second mariage. Jacob Freud avait 40 ans et sa femme en avait 20. Et il y eut des fils et des filles de ce second mariage. Et l'aîné des enfants de ce second mariage de Jacob Freud était donc notre Sigmund Freud, le Freud, je dirais, qui avons donc laissé son nom dans l'histoire. Il n'y a pas de doute que Freud a été déjà dans son enfance, surtout dans son adolescence, et qu'il est resté encore par la suite un malade, ce que l'on nomme un névrosé. Et le problème de sa propre névrose va acheminer Freud, diriger Freud vers l'étude de la psychopathologie et va le pousser au fond à découvrir peu à peu la psychanalyse. Un événement avait beaucoup marqué son enfance, c'est un événement qu'il a trouvé dans son auto-psychanalyse, c'est-à-dire dans la psychanalyse qu'il fit par la suite de lui-même, et ce souvenir au fond l'avait profondément marqué. Son père un jour lui avait raconté qu'il marchait dans Freiberg, lui le juif Jacob Freud, et qu'un chrétien, je mets entre guillemets l'expression chrétienne, lui avait arraché son chapeau, l'avait jeté dans le caniveau en lui disant « Juif, descends du trottoir ». Et lorsque Jacob Freud raconta la chose à son fils Sigmund, Sigmund lui dit « Et alors qu'est-ce que tu as fait ?» Et son père lui avait répondu « Eh ben, j'ai ramassé mon chapeau, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre ?» Et alors, cette idée a marqué Freud d'une double manière. D'abord, par rapport à son père, il reçut ce jour-là comme un choc, comme une onde de mépris à l'égard de son père pour s'être ainsi laissé faire. Et puis alors, une idée qui va accompagner très fort son adolescence et sa vie tout entière, l'idée qu'il montrerait ce qu'un juif est capable de faire. Et au fond, l'idée qui a dominé l'adolescence de Freud, l'idée fixe qu'il a eue dès ce moment, c'était d'acquérir la célébrité. À l'âge de 17 ans, après avoir fait ses études secondaires, Freud entre à l'université et il s'est inscrit à la faculté de médecine de Vienne, la capitale donc de l'Empire austro-hongrois. Et là, tout de suite, peut-être sans le remarquer à l'époque, il s'intéresse à la neurologie. Et le 31 mars 1881, il a donc 25 ans, quand il reçoit son diplôme de médecin. Pendant plusieurs années, de 1881 jusque vers 1887, Freud va être un peu un touche-à-tout au point de vue médical. Il va s'intéresser aussi bien à la médecine générale qu'à la chirurgie, qu'à la neurologie, et pour gagner sa vie, pour obtenir un peu d'argent, pour vivoter, tantôt il va réussir à avoir une bourse pour lui permettre de vivre, tantôt il va toucher de petits salaires comme assistant de médecin, comme auxiliaire de médecin. En 1882, il y a donc un an qu'il est médecin, il tombe amoureux d'une jeune fille, juive comme lui, de quelques années sa cadette, Martha Bernays, et il va rester fiancé pendant 4 années. C'est une époque où l'on reste longtemps fiancé. 4 ans n'avaient rien d'extraordinaire, on restait quelquefois 7 ans, quelquefois 10 ans fiancé, et on ne s'établissait que lorsqu'on avait gagné suffisamment d'argent pour s'installer. Et Freud va donc avoir une vie d'amoureux romantique pendant ces 4 années, et en même temps, pendant ces 4 années, poussé aussi par l'idée de s'établir, il va essayer de trouver sa voie vers la célébrité. Sa vie d'amoureux, romantique, on la connaît d'une certaine façon, puisqu'il a laissé, il a écrit et laissé 1500 lettres que pendant ces 4 ans, il a envoyées à Martha. 1500 lettres, minimum 4 pages, allant jusqu'à 25 pages, une moyenne de 12 pages par lettre. Alors vous voyez un peu le nombre de pages que ça fait. Et bientôt, il croit avoir si j'ose dire, le filon pour acquérir la célébrité. Il écrit à Martha, chérie, il ne nous faut qu'un coup de chance pour pouvoir songer à nous établir. Freud se passionne en effet pour, c'est lui qui écrit, l'aliment efficace des feuilles de coca que certaines tribus d'Indiens mâchent pour résister aux privations et à la fatigue. Et Freud s'enthousiasme pour les possibilités médicales et psychothérapeutiques de la cocaïne. Et il va, si j'ose dire, lancer la cocaïne comme une sorte de remède miracle. Et il fait sur lui-même l'essai de l'alcaloïde. Il faut dire que sa névrose tourne parfois à la dépression. Il éprouve un bien terrible à user de la cocaïne. L'ingestion d'un vingtième de gramme de cocaïne suffit à le plonger dans l'euphorie et à l'enchanter. Il était d'une humeur détestable ce jour-là, justement parce qu'il s'était trompé dans le prix de la cocaïne, il avait payé très cher la cocaïne qu'il avait achetée. Non, en fait, il n'avait pas payé plus cher que normalement, mais il avait trouvé que c'était très cher parce qu'il avait l'idée que c'était meilleur marché que ça. Et tout à coup, après avoir pris son vingtième de gramme, il se sent dans une très grande euphorie. Et il conseille à Martha d'en prendre, en lui disant « ça te donnera un joli teint rose ». Et puis alors, il avait à l'époque un ami, Ernst von Fleisch. Ce Fleisch a eu certainement avec Freud une amitié pour le moins, je mets entre guillemets, trouble. C'était une amitié certainement où un élément d'homosexualité se mêlait. Et alors, Fleisch lui-même était adonné à la morphine, il avait décidé de ne plus s'adonner à la morphine, et Freud lui conseille de se mettre à la cocaïne. Il faut dire qu'à l'origine, si Fleisch s'était mis à l'usage de la morphine, c'est parce qu'il souffrait d'une grave névrite, il souffrait beaucoup, et alors pour se soigner, il s'était adonné à la morphine, et puis petit à petit il était devenu morphinomane, et puis alors il est en train de se désintoxiquer, lorsque Freud lui dit « mais je connais quelque chose de formidable, c'est la cocaïne ». Et il publie dans un journal de médecine du 18 juin 1884 un article célébrant les vertus de la cocaïne. Dans cet article, qui est une sorte de publicité pour la cocaïne, il est écrit « Vous constatez une augmentation du contrôle de vous-même, une vitalité, une puissance de travail accrue, n'importe quel travail intensif, physique ou intellectuel s'exécute sans nulle fatigue, ce résultat s'obtient sans qu'il y ait à craindre les conséquences fâcheuses d'une euphorie due à l'alcool. » Et il va jusqu'à écrire à sa fiancée le 25 mai, persuadé que par sa publicité pour la cocaïne et sa divulgation de la cocaïne comme remède miracle, comme panacée, il va obtenir la célébrité. Il écrit à sa fiancée, « Bref, c'est maintenant seulement que je me sens médecin. » Or, vous vous en doutez, la cocaïnomanie que Freud s'est mis à propager va porter des fruits catastrophiques. Et en particulier, la première victime de l'enthousiasme de Freud va être son ami von Fleisch, dont il avait fait son homme idéal, c'est l'expression qu'il emploie dans une de ses lettres, et Fleisch va devenir victime de syncopes, d'accès de délirium très mince, au cours desquels il croit sentir des serpents courir, ramper sur sa peau, et il meurt. Et d'un peu partout, d'Allemagne, arrivent des nouvelles révélant les intoxications dues à la cocaïne. Et alors, dans les journaux, on est allé jusqu'à parler du fléau déclenché par l'apprenti sorcier de Vienne. C'est une expression, donc, d'un journal de l'époque concernant Freud et la vague de cocaïnomanie à laquelle il avait contribué, le fléau déclenché par l'apprenti sorcier. Alors Freud, qui ne perd pas son idée d'acquérir la célébrité, va se rendre à la fin de 1885 à Paris. Il y est peu resté, mais ça va le marquer considérablement. Il va rester en tout à Paris pendant 17 semaines. Et pendant ces 17 semaines, il va se trouver à la Salpêtrière, à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris, auprès du célèbre Charcot. Charcot était célèbre, il avait déjà publié volumes au sujet des découvertes qu'il avait faites. Il y avait une maladie, si j'ose dire, à la mode, une névrose à la mode à l'époque, c'était l'hystérie, et Charcot guérissait les hystériques par l'hypnose. Et pendant ces semaines à Paris, voilà que Freud se met à se passionner pour l'hypnose. Il se rendra d'ailleurs quelque temps plus tard, pendant quelques jours, à Nancy, où il y avait des professeurs à la faculté de médecine qui, eux aussi, disaient un très grand bien de l'hypnose. Alors, de retour de Paris, le 25 avril 1886, Freud va pratiquer l'hypnotisme pour soigner des névrosés. Et c'est pendant ce début de pratique de la médecine que Freud va voir germer en lui l'idée de la psychanalyse. Déjà en 1880, donc un an avant d'avoir son diplôme de médecin, Freud avait fait la connaissance du docteur Breuer. Le docteur Breuer était de 14 ans son aîné, et par la suite, en 1882, donc 4 ans avant que Freud ne s'établisse comme médecin, Breuer lui avait raconté une histoire qui est connue dans les annales médicales comme l'histoire d'Anna O, O étant bien sûr un pseudonyme. En réalité, il s'agissait d'une nommée Bertha Pappenheim et qui était atteinte d'hystérie. Vous savez, à l'époque, je vous l'ai déjà dit, l'hystérie était à la mode. Il y a des modes, même pour les maladies, et les hystériques abondaient à l'époque. Il y avait d'ailleurs des tricheuses. Il y avait des tricheuses. Par exemple, on a beaucoup ridiculisé Charcot parce que à certains moments, il s'était fait avoir. Il y avait des femmes qui avaient prétendu être hystériques. Charcot les avait traitées devant une foule d'étudiants en médecine. Et puis le lendemain, ou sur le lendemain, la pseudo-hystérique révélait qu'elle avait voulu faire une blague à Charcot. Mais malgré tout, l'hystérie était à la mode. Et Anna O était donc venue trouver Breuer. L'hystérie d'Anna, ou de Bertha, vous pouvez prendre le prénom que vous préférez, se révélait par une anémie consécutive à un refus des aliments. Tous les aliments la dégoûtaient. Alors elle était devenue anxieuse, elle vociférait, elle entrait en crise, et puis elle a sombré dans un mutisme total. Elle ne parlait plus, elle ne voulait plus, ou plutôt elle ne pouvait plus parler, et en même temps elle avait des hallucinations. Un jour, ayant endormi Bertha par hypnose, Breuer entendit celle-ci parler pendant son sommeil hypnotique. Et elle parlait de son père mourant, auquel elle avait servi de garde-malade. Et curieusement, quand elle parlait ainsi dans son sommeil hypnotique, lorsqu'elle se réveillait, il semblait que Bertha allait mieux. Alors Breuer vit là une indication, et il aidait Bertha, une fois endormie par hypnose, a démarré son récit. Et un jour, par exemple, elle raconta que elle avait été chez une amie, que cette amie, à un moment donné, avait donné sa tasse à thé à son chien. C'était sale, dit Bertha au cours de son récit. Et tout à coup, cette hystérique qui refusait de boire depuis longtemps se mit à dire, à demander, à réclamer, à crier même qu'on lui donne à boire. Et finalement, à nouveau, elle s'était mise à boire et à s'alimenter. Alors, Breuer avait donc raconté en 1882 cette affaire à Freud, et quand Freud, en 1885, à la fin de 85, était allé à Paris auprès de Charcot, il avait raconté cette histoire à Charcot. Charcot n'y avait attaché aucune importance, n'avait manifesté aucun intérêt pour ce récit. Or voilà que, plusieurs années après, en 1889, Freud est appelé à donner ses soins à une baronne balte. Et il songea à employer la méthode cathartique employée par Breuer avec Bertha. Le mot cathartique vient d'un mot grec, catharsis, qui désigne la purgation de l'âme de ses passions, et si vous voulez, dans, plus tard, cela va devenir, en psychanalyse, la purgation des souvenirs traumatisants. Et donc, Freud, recevant cette baronne Balde dans son cabinet médical, pense à appliquer la méthode de Freud. Et voilà donc, de Breuer. Et voilà donc que ça a l'air, je dis, ça a l'air de marcher. Et il faut dire tout de suite qu'en réalité, on se rend compte que Anna O n'avait jamais été guérie. Elle. Et je dirais la baronne Ball non plus. Disons que simplement, l'une comme l'autre, après la médication, si j'ose dire, ou la catharsis opérée par Breuer, et l'autre après la catharsis employée par Freud, sur le moment, semble aller mieux. Mais donc, maintenant, Freud a trouvé une voie pour acquérir la célébrité. Et alors, successivement, il va avoir plusieurs patientes, c'est assez curieux, c'est comme ça, il se trouve que c'était des femmes qui étaient hystériques. Est-ce que les hommes hystériques ne se montraient pas? Peu importe, en tout cas, ce sont des femmes. Alors, il y a eu donc cette baronne Balte. Ensuite, il y a une Anglaise qui était au père, en réalité. Non, on dirait aujourd'hui au père, enfin elle était gouvernante auprès d'enfants, qui s'appelait Miss Lucy. Et puis, il y a eu la première analyse complète, qui sera celle d'une certaine Elisabeth von Hell. Tout ceci fait qu'en 1895, Freud publie, conjointement avec Breuer, son aîné, des études sur l'hystérie. Là, en réalité, on se trouve devant un problème moral, un problème éthique, un problème déontologique, assez grave quand même. C'est que Freud, dans ce livre, raconte des cas de telle façon, avec tant de précision, qu'on pouvait finalement savoir de qui il s'agissait. Ce qui est quand même assez redoutable. Mais, de l'autre côté, cette parution des études sur l'hystérie, c'est la première fois que l'on peut voir apparaître, sinon la psychanalyse, du moins ce qu'on pourrait appeler une pré-psychanalyse. Là où les choses vont se développer, c'est parce que à partir de 1897, Freud va se lancer dans son auto-analyse. C'est en 1886, l'année de la mort de son père, que Freud, pour la première fois, reconnaît dans une lettre qu'il est marqué par une tare neuropathologique. Et il va décider de se soigner lui-même. Et il va donc se lancer dans son auto-analyse. Freud avoue à l'un de ses amis, Fliess, qu'il vient de subir une crise névrotique et maintenant, écrit-il à Fliess, la grande entreprise de ma vie a commencé. C'est là où la biographie de Freud et le développement de la psychanalyse coïncident. Freud, s'auto-analysant, voit apparaître en lui, en même temps qu'un certain nombre de souvenirs, la théorie de la sexualité enfance. Et tout ceci est signalé dans ce qu'on appelle depuis le complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe. Je ne sais pas si vous avez lu Sophocle, ou si vous vous souvenez l'ayant lu de ce qu'a raconté Sophocle dans Œdipe. Œdipe est le fils du roi de Thèbes, Laios, et il est condamné par l'oracle, par le sphinx, à tuer son père et à épouser sa mère. Il est condamné. Ça va être son destin. On pourrait dire son ananke, son destin. Et bien sûr, il ne va accomplir le meurtre de son père et il ne va épouser sa mère qu'en ignorant qu'il s'agit de son père et de sa mère. Par exemple, c'est en étant heurté par un inconnu dans un carrefour que Œdipe devient meurtrier de Laios, son père. Il ne sait pas que c'est son père, mais il tue son père. Et puis, vainqueur, ayant résolu son énigme, il reçoit pour époux en récompense sa mère. Et il ne sait pas non plus qu'il s'agit de sa mère. Alors ça, c'est ce que raconte Sophocle. Mais enfin, Freud, lorsqu'il s'auto-analyse, ne connaît pas ce récit de Sophocle. Ou s'il le connaît, disons, il n'y pense pas. Il découvre, ou il croit découvrir, dans sa petite enfance, l'amour incestueux de chaque garçon pour sa mère, de chaque fille pour son père, et la jalousie, sinon la haine, que tous deux voient naître pour leurs parents du même sexe, jalousie et haine se traduisant souvent plus tard par des désirs inconscients de mort. Je le répète, ce n'est pas la légende d'Œdipe qui confirme Freud dans ses vues, mais ce sont ses vues qui lui font rechercher la légende d'Œdipe en vue d'une confirmation. Le 15 mars 1898, il écrit « Il va falloir que j'étudie la légende d'Œdipe, mais je ne sais encore dans quels ouvrages. » Non, vous voyez, Freud s'auto-analysant, par exemple, il y avait un souvenir qui lui revient, c'est que dans son enfance, un jour, il avait aperçu, sans avoir cherché du tout à le faire, mais il avait aperçu sa mère, qui était donc, je vous le rappelle, bien plus jeune que son père et qui était, paraît-il, très belle, il l'avait vue nue. Et ça, c'est un souvenir qui a marqué Freud, le souvenir de cette mère encore jeune et belle, nue. Donc, à partir de ses propres souvenirs, à partir de ce qu'il a lui-même ressenti, ou qu'il croit avoir ressenti, selon son souvenir, voilà que Freud construit toute sa théorie du complexe d'Édipe. Il y a une chose à noter à ce sujet, c'est que pour le cinquantenaire de Freud, en 1906, des amis lui offrent un médaillon où était gravé d'un côté le profil de Freud et de l'autre côté le motif d'Édipe répondant aux énigmes du Sphinx. Et il y avait ce vers de Sophocle en dessous, celui qui résolut l'énigme fameuse et fut un homme de grand savoir. Et à ce moment-là, Freud a failli s'évanouir. Et puis il a posé la question, mais qui a eu l'idée de cette médaille? Et alors l'un de ses disciples lui a dit, c'est moi. Et alors ça a d'autant plus marqué Freud que, visitant l'université de Vienne, alors qu'il était jeune, il avait vu des bustes de grands savants qui avaient illustré cette université, et il avait, à ce moment-là, eu comme la vision intérieure qu'un jour son buste se trouverait là, et il y aurait inscrit précisément sous ce buste ce vers de Sophocle, celui qui résolut l'énigme fameuse et fut un homme de grand savoir. Et alors, tout à coup, se voyant offrir ce médaillon, ça lui a porté un coup, parce qu'il voyait se réaliser, 30 ans après, la vision qu'il avait eue de son buste à côté du buste des autres savants, des autres professeurs savants de l'université de Vienne. Alors, il voit là encore comme une prémonition et une réalisation de sa prémonition. Il faut dire d'ailleurs que Freud, une des caractéristiques de Freud, c'était qu'il avait un côté superstitieux. Il était assez porté vers l'occultisme, il avait un côté superstitieux et il avait en particulier dans son bureau, dans son salon médical qui lui servait de bureau, il y avait le fameux divan, eh bien, il avait des statuettes de toutes sortes de dieux bizarres, en particulier des dieux cananéens, des dieux de la fécondité, des dieux en rapport avec la vie sexuelle, des dieux, un peu ces dieux qui, dans la Bible, sont détruits pour être remplacés par le vrai Dieu. Et au fond, il y a un côté, je le répète, d'occultisme et de superstition. Et alors, c'est en liaison, ça aussi, un petit peu avec la famille de Freud. En effet, la famille juive de Freud avait été très marquée par une sorte d'hérésie juive qui était née au XVIIe siècle, qui avait donné naissance à ce qu'on a appelé le chassidisme. Il y avait eu à ce moment-là un certain personnage qui s'était prétendu le Messie. Et il y avait quelque chose de trouble dans ce pseudo-messianisme parce qu'on voyait dans les dieux de la Palestine des divinités que le dieu de la Bible avait malencontreusement, malheureusement renversé. Bref, il y a à l'origine de la pensée de Freud, il y a des éléments extrêmement curieux et tenant à l'occultisme. Résultat de cette auto-analyse de Freud qui, je le dis, va se poursuivre pendant des années. D'ailleurs, vous savez, la psychanalyse, c'est une entreprise de longue durée. On peut être psychanalysé pendant 2, 4, 5, 10 ans. La psychanalyse, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui donne vite des résultats. Quand elle le donne, d'ailleurs, des résultats. Mais ceci est une autre histoire, comme aurait dit Kipling. Et alors, il y avait une confrontation féconde avec les fantasmes nés de l'enfance, la reconstitution d'une personnalité jusque-là dissociée, et aussi la guérison apparente ou momentanée de quelques-uns des symptômes hystériques. Donc, Freud, s'étant auto-analysé, va publier le livre qu'il considéra d'ailleurs comme le plus important de son œuvre et son ouvrage préféré, qui s'appelle, ou tout au moins, qui a été traduit en français sous le titre « La science des rêves » en 1926. Une autre traduction portera « L'interprétation des rêves » dans l'édition de 1967. Mais en allemand, c'est « Die Traumdeutung » et au fond, littéralement, enfin le mot classique, c'est « La clé des songes ». La clé des songes. Et en fait, Freud va apporter la clé des songes. Il n'a pas eu un grand succès, le pauvre Freud. Il faudra 8 ans pour épuiser une première édition de 600 exemplaires. Et pour Freud, le rêve va être la voie royale vers l'inconscient. La voie royale vers l'inconscient. Et nous avons avec le rêve vraiment une des clés de la psychanalyse. Et les psychanalysés vont être invités à raconter leur rêve. Pourquoi ? Parce que dans l'état de sommeil et de rêve, la partie consciente de l'homme ne maîtrise plus la partie inconsciente. On pourrait comparer cela à un iceberg. Vous savez, dans un iceberg, vous avez un huitième de l'iceberg qui est émergé et les 7/8 de l'iceberg qui sont immergés. On pourrait dire la partie émergente, c'est le conscient et la partie immergée, c'est l'inconscient. Et au fond, dans le rêve, notre conscient ne domine plus, ne contrôle plus notre inconscient, et donc notre inconscient se livre. Et c'est dans le rêve que l'inconscient peut se livrer le mieux. Et donc, le récit des rêves va être un des points forts de la psychanalyse. Et c'est là que va s'opérer, au moment où Freud vient publier cet ouvrage, que va s'opérer la rupture avec Breuer. En effet, pour Freud, ce qui domine l'homme, ce qui domine l'inconscient de l'homme, et l'inconscient pour Freud est beaucoup plus important que le conscient, c'est la sexualité. Or, Breuer va toujours se refuser à voir la sexualité comme la dominante. Si vous voulez, la sexualité pour Breuer n'est qu'une des composantes dans l'étiologie des névroses, et donc il va y avoir rupture avec Freud. Pendant des années, de 1800 jusqu'en 1900, pendant 10 ans, ils ont été amis, ils ont été liés, bien plus c'est Breuer qui a mis Freud sur la voie, et voilà que maintenant ils vont diverger. Et il faut voir, on ne peut pas dire autre chose, Freud a été terriblement méchant avec Breuer. Il avait un fichu caractère, Freud, et il était très autoritaire. Et il n'admettait absolument pas qu'on diverge de ses affirmations. Et dès qu'un de ses disciples, un de ses amis, se mettait à penser autrement que lui, c'était la rupture. Et la rupture avec condamnation, parce que selon les théories psychanalytiques, il s'agit de résistance à la vérité, il s'agit d'opposition à la vérité. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a par exemple des écoles psychanalytiques qui se disputent et s'anathématisent extrêmement fortement. En 1905, sur sa lancée, Freud va publier ses 3 essais sur la théorie de la sexualité. Si vous voulez, à partir de son auto-analyse, à partir de ses interprétations des rêves, Freud voit de plus en plus la place capitale qu'à ses yeux tient la sexualité dans la vie humaine. Et alors, ces trois essais, il y en a un sur le premier essai sur les aberrations sexuelles, le deuxième est sur la sexualité infantile, et le troisième essai est sur les transformations de la puberté. Alors là, ça a été un véritable scandale. Ça a été un véritable scandale. L'homosexualité est au premier plan de l'ouvrage, Freud découvre la perversité polymorphe et la cruauté de l'enfant, et en même temps il couronne ces trois essais par sa théorie célèbre de la libido étant, selon Freud, l'énergie à la base des processus sexuels. Dans la suite des trois essais, Freud prend parti contre la monogamie et la continence qui provoque selon lui la plupart des névroses. Bref, on est encore, si j'ose dire, dans l'ère victorienne, dans l'ère d'un certain puritanisme bourgeois, du moins extérieur. Alors, avec ces trois essais sur la théorie de la sexualité, Freud vient de lancer un énorme pavé dans la mare des convenances, et c'est quelque chose de terrible. 1000 exemplaires seront écoulés seulement en 4 ans, où on n'en parle pas, ou si l'on en parle, c'est pour en dire beaucoup de mal. Mais en fait, c'est à ce moment-là, donc en 1905, que l'essentiel de la psychanalyse a été découvert par Freud, et je dirais, c'est dans les années qui vont précéder la Première Guerre mondiale, entre 1905 et 1914, que l'essentiel de la thérapeutique psychanalytique freudienne est constitué. Et alors maintenant, Freud rejette l'emploi de la suggestion, de l'hypnose, et même il avait remplacé l'hypnose par une simple pression sur le front des patients. Il va même supprimer cela, et la méthode va devenir une méthode par récit, par déroulement, par association d'idées. Et alors ici, il faut dire en deux mots, d'abord quelque chose du divan, et ensuite quelque chose de la règle du jeu. Ensuite, le divan est au fond le seul vestige au moi, la réaction naturelle du moi est de satisfaire cette demande. Mais le moi examine quand même si c'est réaliste, si la chose est possible, s'il ne convient pas d'être prudent. Et puis il y a le super-ego, le surmoi. Durant le développement individuel, une partie des forces d'inhibition du monde extérieur va être intériorisée. Et alors, une norme est ainsi établie dans le moi, norme qui s'oppose aux autres facultés par l'observation, la critique, l'interdiction. Donc, avant de satisfaire le « ça », le moi va considérer non seulement les dangers du monde extérieur, mais aussi les objections du surmoi. Et il arrive que la répression l'emporte sur la satisfaction. On peut dire que le surmoi, le super-ego, représente les parents, les éducateurs, l'Église, tous ceux qui, pendant le temps de l'enfance, ont dominé les actions de l'individu, et au fond, le surmoi tient en sa dépendance et sous sa pression le moi. Et alors, le moi cherche, d'une part, à satisfaire le « ça », mais d'autre part, il va chercher à satisfaire ses autorités, maintenant pleinement intériorisées, et il va donc sacrifier au surmoi. Ainsi, le surmoi peut-il devenir l'ennemi du ça, comme il peut aussi s'unir au ça pour condamner le moi comme vil et indigne. Et c'est ainsi que le surmoi est la cause des refoulements, parce que le ça est frustré. Donc voilà les trois systèmes, au fond, les trois instances psychiques qui opèrent dans l'homme et constituent ensemble sa personnalité. Le psychanalyste, ou la psychanalyse, va se mettre du côté du ça contre le surmoi. Nous avons dit que le ça correspondait au fond à la vieille volonté adamique déchue. On peut dire que le moi correspond à l'esprit de l'homme, au sens le plus large du mot esprit, et que le surmoi correspond à la conscience. Placé entre trois maîtres également tyranniques et absolus, le monde extérieur, le ça et le surmoi, le moi se trouvant dans une posture incommode. Et il faut ajouter encore que Freud traite de la culpabilité, non pas au même sens que la foi chrétienne, mais dans une interprétation biologique, anthropologique, amorale, déresponsabilisante. Je suis désolé, mais c'est impossible de tout dire en une conférence, ou de donner l'essentiel. Alors, je voudrais quand même souligner en conclusion, parce qu'il faut que je conclue, ne serait-ce que par égard à votre endroit, je dirais, on peut dire que Freud et le freudisme ont contribué à saisir l'homme selon un modèle prétendument médical et à l'opposé d'un modèle éthico-spirituel. Alors, cela va contribuer forcément à la déresponsabilisation de l'homme. Et c'est en ce sens que Freud et le freudisme ont contribué, je ne dis pas sans la cause, parce que les causes sont multiples, mais Freud et le freudisme ont contribué au développement de ce que l'on appelle la nouvelle morale, et qu'on pourrait plutôt appeler la nouvelle amorale. Au fond, pour les psychanalystes, en tout cas de l'orthodoxie freudienne, les problèmes qu'a un névrosé, les problèmes qu'a un homme, parce que tout homme d'une certaine façon est névrosé, sont tous allogéniques, c'est-à-dire dus à d'autres, plutôt qu'autogéniques, c'est-à-dire dus à soi-même. Voilà un homme qui a des problèmes. En réalité, ces problèmes, c'est une sorte d'archéologie psychanalytique qui va en découvrir les causes. Et les causes, on va les découvrir dans la petite enfance, on va les découvrir avec les grands-parents, avec les parents, avec les pasteurs, avec les éducateurs, etc. Autrement dit, si un homme a des problèmes, ces problèmes ne peuvent pas avoir sa source en lui. Ces problèmes vont avoir leur source dans les autres. Un disciple de Freud n'hésite pas à écrire que la maladie mentale est le résultat du rejet et de l'exploitation de l'individu par la société. Au fond, la psychanalyse est une expédition archéologique visant à découvrir qui sont les blâmables, qui sont les coupables. Et alors, ça a eu des conséquences en éducation, des conséquences prodigieuses. Par exemple, les parents vont être effrayés à l'idée qu'en appliquant une punition, bien plus que simplement en grondant leurs enfants, ils vont leur procurer leurs difficultés psychologiques futures. Il va donc y avoir, dans le domaine de l'éducation, une totale permissivité. Parce que il faut éviter cette répression. Il faut éviter ce qui va causer des traumatismes profonds qui révéleront leurs effets plus tard. Remarquez, on pourrait dire que si le freudisme était vrai, les gens les plus immoraux ou même les plus amoraux devraient être les plus heureux. Et c'est l'inverse qui est vrai. Et il y a à cela une raison très simple, c'est que si frustré le ça peut être dangereux, supposons-le, frustré la conscience morale est autrement dangereux. Et c'est là qu'est le point. Freud définit les névroses sur le modèle médical. Et il est vrai qu'il y a souvent des symptômes physiques, somatiques, des fatigues, des maux de tête, des insomnies, pourront accompagner ou prolonger des symptômes psychiques, d'anxiété, d'obsession. Mais s'agit-il vraiment de maladie et non pas en réalité, dans certains cas, de défiance par rapport à Dieu ou à sa loi. Je suis de ceux qui pensent que la multiplication présente des neuroses, des psychoses, de ce qu'on appelle le stress et tout ça, est symptomatique d'un monde sans Dieu. Et qu'au fond, il ne faut pas les définir sur le modèle médical, comme l'a voulu Freud et comme le veulent les psychanalystes, mais sur le modèle éthico-spirituel. Et c'est pourquoi, en réalité, ces névroses ne relèvent pas de la psychanalyse, mais de ce qu'on appelait la cure d'âme. Ceci ne veut pas dire que les névroses, les psychoses, le stress, avec les symptômes physiques qui peuvent les accompagner, ne sont pas réels. Mais elles traduisent au plan psychique des réalités éthico-spirituelles. Même des complexes de fausse culpabilité peuvent masquer une vraie culpabilité. Ce qui est sûr, c'est que la psychanalyse développe l'introspection chez des personnes déjà enclines à s'y adonner, alors que la cure d'âme chrétienne conduit à s'oublier soi-même et à reconsidérer Dieu, le prochain et la vocation que l'on a reçue dans son existence. Freud veut bien qu'il y ait des hommes éprouvant un sentiment de culpabilité, mais pour lui, il n'y a pas de coupable devant Dieu, c'est-à-dire des pécheurs. Le mot péché n'a pas de place dans la psychanalyse. Et l'anti-christianisme de Freud consiste à abolir Dieu en détournant le sentiment de culpabilité de la situation religieuse à la situation scientifique. Le problème de la culpabilité peut et doit être résolu scientifiquement parce qu'il est embarrassant. C'est le point de vue de la psychanalyse. Et il est sûr que le sexe, séparé de la loi de Dieu et de l'amour conjugal, ne devient plus, comme il tente à le devenir aujourd'hui, qu'un jeu agréable ou un exercice prophylactique. Donc on peut s'y livrer impunément. Mais en fait, cette révolution sexuelle, loin de résoudre les problèmes, n'a fait qu'accroître l'anxiété intérieure. Et nous avons là l'évidence scandinave avec la multiplicité des suicides. On constate que ce sont des 25% des décès parmi les jeunes qui sont des suicides, alors que 2% de suicides pour l'ensemble des décès est déjà une proportion jugée trop élevée. Donc, on assiste maintenant aux conséquences lointaines, non pas directement du freudisme, mais je dirais de certaines idées, de certains faux concepts que le freudisme a développés. Voilà, je vais m'arrêter ici, parce que sans ça, je n'en finirai pas.
On va avoir des conflits d'école.
Un des premiers a mis le doigt sur quelque chose que tout le monde avait occulté jusqu'à lui, et qui était la place de l'intention de notre époque. On veut à l'heure actuelle poser des questions sur la place de la psychanalyse, sur son rôle thérapeutique, et là je vous demande du social quand même, savoir si la psychanalyse. connu, qui n'est pas encore connu, mais malheureusement trop connu pour la mystification qui concerne l'hypnose. Parce que Charcot n'a jamais guéri personne par l'hypnose. Et il a étudié un excellent livre de Barbican qui s'appelle L'histoire de l'hypnose, qui montre que les patientes présumées hystériques, en fait, étaient préparées par ses assistants pour faire du guillemets tous ses patrons. Et qu'elles n'étaient pas dupes du jeu auquel elles étaient. Le deuxième point sur l'hystérie, vous avez parlé de Freud, de l'hystérie chez la femme, et en disant que c'était chez la femme qu'on rencontre le plus. Ça, c'est faux. C'est la misogynie de Freud qui a fait qu'il a écrit l'hystérie chez la femme. Il y a autant d'hystérie homme que d'hystérie femme. Dernier point, parce que je ne voudrais pas garder la parole.
Non, mais expliquez-vous.
Concernant le traumatisme psychologique qu'on infligerait aux enfants en grondant leur souffrance de bêtises en ayant des petits, ça c'est la théorie de la psychanalyste. Non, vous la prenez à contre-pied, la théorie de la psychanalyste, c'est pas ça du tout. Un enfant qui fait une bêtise, c'est-à-dire qui transgresse la loi, tel que les parents fixés et qu'on ne gronde pas, c'est un enfant qu'on envoie. Donc il ne faut pas faire tout aux psychanalystes, au contraire, parce qu'il doit dire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, je ne sais pas si... Ou alors s'il y a peut-être une question, mais peut-être vous voulez...
Non, la seule chose que je tiens à dire, mais qui va plutôt dans le sens de ce que vous venez de dire, docteur, c'est que la psychanalyse, en tout cas, à mon sens, a trois défauts qui sont très graves. D'abord, c'est long. Ensuite, ça coûte cher. Et enfin, c'est pas efficace. Et alors, je serai alors tout à fait sévère quant au fond. Je pense que les personnes qui se tirent bien d'une cure psychanalytique auraient vraisemblablement, comme l'un de vous vient de le dire, guéri tout seul. Je ne sais pas si c'est en vieillissant qu'on guérit d'une névrose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un pourcentage de névrosés qui guérit tout seul. Et je pense que les cas où la psychanalyste a vraiment guéri, c'est à peu près des cas dans une proportion normale, habituelle. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est finalement la déresponsabilisation et la dépersonnalisation à quoi concourt la psychanalyse. Et là, je trouve ça extrêmement grave. Parce que, finalement, c'est de l'homme dans sa dignité même qu'il s'agit. Parce que, en ce qui concerne sa personnalité, cela tient évidemment à ce qu'il a été créé en image de Dieu, et que la personne humaine est donc un reflet de la personne de Dieu. Mais en ce qui concerne la déculpabilisation, d'abord, c'est très grave, parce que il y va finalement de toute notre réalité devant Dieu. N'est-ce pas ? Et je crois que là, finalement, j'ai eu des cas très nets de personnes, par exemple, qui ont été, en effet... rassuré, on peut dire, à la suite d'un certain temps de psychanalyse, rassuré même dans leur inconduite, finalement, parce qu'on on les a tranquillisés. Et bien sûr, je ne voulais pas dire, la cure psychanalytique, c'est pas qu'elle ait abouti à ça, mais je veux dire, elle a contribué à cela. Elle a contribué à donner bonne conscience à des gens dont le drame névrotique provenait précisément d'un péché grave, et finalement on endormait la conscience morale du psychanalysé, et on aboutissait évidemment à le faire se sentir bien dans sa peau, si j'ose dire, mais il se trouvait bien dans sa peau de pécheur, il se trouvait bien dans sa peau de coupable devant Dieu, et vis-à-vis aussi d'ailleurs du prochain. Alors c'est ça que je trouve terrible. Dans la psychanalyse. C'est ça que je trouve. Autant, par exemple, il y a un livre très intéressant que j'ai lu à ce sujet et qui me paraît mettre le doigt sur la plaie. C'est un livre du professeur Baruch de l'Académie de médecine. Je ne me souviens pas du titre exact, mais en gros, ça doit être « Psychanalyse et Torah » ou quelque chose comme ça. Et c'est très important parce que Baruch, d'abord, montre que Freud dans ses connaissances neurologiques et on peut dire même psychiatriques, s'est arrêté à un certain stade et n'a plus tenu compte de tous les progrès que la médecine avait pu faire dans le domaine de la neurologie. Et finalement, Freud, moi je crois vraiment que Freud porte une responsabilité très grande dans l'amoralisme contemporain. Et je crois, bien sûr, on peut dire que c'est du freudisme, comment dire, dégradé, du freudisme qui, par le fait même de sa diffusion, a perdu certains points, je veux bien. Mais je crois finalement que Freud porte une très très grande responsabilité dans la situation contemporaine au point de vue moral.
Oui, sur les selles.
Qui est capable?
Non, je pense que, en un sens, le seul qui puisse guérir dans ces cas-là, c'est Dieu lui-même. Et donc, les chrétiens, dans la mesure où ils apporteront la parole de Dieu, peuvent, à mon sens, agir beaucoup plus efficacement dans les cas, n'est-ce pas, où un trouble a des causes organiques, cela relève de la médecine. Mais je dirais, dans les autres cas, cela relève de la relation de l'homme avec Dieu. Et au fond, je pense que s'il y a aujourd'hui plus de stress, plus de névrose, plus de psychose, si l'homme est désorienté, s'il n'y a plus de suicide et tout ça, je crois que c'est parce que la relation avec Dieu n'existe plus. Et au fond, je crois que nous allons vers un monde qui risque de connaître de plus en plus de névrose, de plus en plus de psychose, de plus en plus. Voilà, ça j'ai cette conviction.
Alors, docteur Battisti, puis le docteur.
Juste un petit mot, quand vous avez parlé cet ouvrage
de par rapport à l'Afrique est tout à fait juste, mais je me place par rapport aux terres de chrétienté. Et en particulier, mon allusion était en rapport avec ce qui se passe en Scandinavie. Or, ce que je vois là, c'est que je vois que dans la mesure où on est arrivé à un matérialisme anti-Dieu en Scandinavie, n'est-ce pas, vous avez non seulement en même temps un accroissement de la drogue, un accroissement de l'immoralité, un accroissement des suicides, et une proportion de suicides quand même qui est considérable, parce qu'on arrive à 25%, 25% des morts parmi les jeunes, n'est pas, 25%, un quart est dû au suicide. Alors que la proportion des suicides, quand on considère l'ensemble des âges, si vous voulez, est de 2%, et qu'on considère que 2% c'est déjà quelque chose de très fort. Alors c'est là où tout de même ça joue, si vous voulez, pour les terres de chrétienté. Je crois que ce que vous dites est juste, mais parce qu'une civilisation non chrétienne peut avoir cependant des bases morales qui tiennent, voyez-vous ce que je veux dire. Tandis que là, c'est dans la mesure où vous avez dans les pays anciennement chrétiens un recul de la foi, une sorte d'apostasie par rapport à Dieu, que on voit croître cet ensemble de tendances, disons, de tendances névrotiques. Parce que là aussi, ben, il faudrait bien voir qu'est-ce qui va définir très précisément ce que c'est qu'une névrose. En un sens, je dirais que on est là dans une sorte d'impossibilité d'une définition précise, où on va tracer la ligne de démarcation entre ce qui est d'ordre névrotique et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que je me suis permis à un moment donné de dire l'homme normal existe-t-il? N'y a-t-il pas une tendance névrotique en beaucoup plus d'hommes qu'on l'imagine? Vous êtes d'accord avec ça?
Est-ce qu'en dehors du corps médical, il y a quelqu'un qui ou du corps pastoral, quelqu'un qui voudrait prendre la parole?
Inconscient ou subconscient, parce que là aussi, il faudrait voir qu'est-ce que c'est que l'inconscient, pourquoi il y a deux mots, pourquoi on dit inconscient, pourquoi on dit subconscient. Mais enfin, je veux dire, c'est vrai que Freud a montré l'importance du subconscient dans la vie des hommes. et dans la constitution même de notre personnalité. Et je crois qu'il y a des éléments forts là-dedans. Ce que, par contre, ce dont je suis absolument persuadé, non pas du tout dans mon ignorance, parce que, je dirais, j'en aurais l'idée, mais parce que, simplement, c'est une constatation, je ne crois pas du tout à l'efficacité thérapeutique de la psychanalyse. Voilà, ça, je ne le crois absolument pas. Et je crois au contraire, pour l'avoir souvent rencontré, moi j'ai rencontré, si j'ose dire, quelquefois, les aboutissements de la psychanalyse. C'est épouvantable. Je dirais, dans bien des cas, ça les a rendus plus malades. Et je dirais, c'est un grand malheur qu'ils se soient tournés vers les psychanalystes. C'est un grand malheur. Et je crois qu'il y a une responsabilité très grande, souvent, des psychanalystes dans l'aggravation de certaines névroses. Et je pourrais citer là des cas, pendant mes 23 ans de ministère à Paris, je dirais, j'ai vu, je dirais pas quotidiennement, parce que là j'exagérais, mais j'ai vu de mois en mois les résultats navrants. Et c'est là où l'on voit que souvent la désobéissance d'un homme par rapport à Dieu et par rapport à la loi de Dieu était une vraie cause de névrose. Et qu'au fond, souvent la reconnaissance de ce que nous, chrétiens, nous appelons le péché, et en prenant le péché là, non pas seulement dans un sens global, mais dans un sens spécifique, particulier, hein, c'était le péché d'un homme ou d'une femme qui provoquait la névrose. Et le péché confessé devant Dieu, le pardon reçu de Dieu, la conversion à Dieu, avait trois avantages. Un, elle était efficace. Deux, elle ne coûtait rien. Et trois, elle était immédiate. Alors là, j'en porte le témoignage, je l'ai vu. Et c'est pour ça que je dis, j'ai beaucoup plus confiance de ce côté-là que d'un autre. Seulement, je précise tout de suite, c'est parce que dans ces cas-là, il ne s'agissait pas de cas relevant d'un trouble organique. Il y a des troubles neurologiques, qui font que, et alors là, ça se soigne, et là, ça relève de la médecine, et ça relève de la psychiatrie ou de la neurologie, tout ça. Mais quant à dire que la névrose relève de la psychanalyse, moi je suis de ceux qui disent non, parce que j'ai trop vu les conséquences, les résultats de cures psychanalytiques, sans compter alors de l'argent dépensé, du temps pris, c'est effarant. C'est effarant.